rentrée, Madame Marie-André Altier, Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Christian Ozas, Monsieur Pierre Avon, Monsieur Jean-Marie Blanc est excusé à donner pouvoir à Monsieur Jean-Yves Maréchal, Madame Marie-Claude Bompard, Madame Sylvie Bonifaci, Madame Françoise Bouclet, Madame Marie Calero, Madame Laurence Desfonds-Fargeon, Monsieur Hervé Flaugère, Monsieur Juan Garcia, Madame Laure Giton, Monsieur Jean-Louis Grappin, Monsieur Jean-Marc Garinos, Madame Myriam Gutiérrez, Madame Florence Jouve-Lavolée, Monsieur Jean-Pierre Lambertin est excusé à donner pouvoir à Monsieur Hervé Flaugère, Monsieur François Lucas, Madame Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Denis Mossy, Monsieur Christian Perron, Monsieur Joël Racamier, Monsieur Claude Raoux, Madame Cathy Ricard, présent. Madame Bruna Romanini, présent. Monsieur Benoît Sanchez, présent. Madame Anne-Marie Souffeton est excusée et a donné pouvoir à Madame Sylvie Bonifaci, Madame Virginie Vicente est excusée et a donné pouvoir à Madame Marie-André Altier et Monsieur André Vigli. Bien, chers collègues, avant de démarrer cette séance, vous avez peut-être appris, nous avons appris dans la journée avec beaucoup de tristesse la disparition de Monsieur Patrice Comte, ancien directeur de l'école de musique de Mondragon, ancien directeur du conservatoire municipal de musique André Armand de la ville de Bolène. Notre territoire perd un infatigable défenseur de la musique traditionnelle et de la Provence et de la musique globalement, amoureux, passionné de musique notamment. De la musique traditionnelle, il a beaucoup œuvré pour de nombreuses générations d'élèves, de l'éveil musical, il devait commencer ses cours demain sur le galoubé tambourin avec les petites sections, des élèves en situation de handicap avec le bao-pao et jusqu'aux adultes, même retraités, il continuait à transmettre sa passion à l'école de musique de La Palue et de Mondragon notamment. Il enseignait le galoubé tambourin et il continuait de s'investir auprès de différents publics, toujours avec bienveillance et professionnalisme. Aussi, je souhaiterais que nous puissions observer une minute de silence en sa mémoire, s'il vous plaît. Je vous remercie. Vous savez que notre Assemblée avait délibéré pour qu'il puisse émettre avec son fils Valentin un disque livré qui devait sortir dans quelques semaines, qui avait été enregistré à la Cigalière. Et donc au nom de l'Assemblée intercommunale, comme j'ai pu le faire dans l'après-midi, j'adresse à son épouse Mireille, à ses enfants Anaïs et Valentin, ainsi qu'à toute sa famille, nos plus sincères condoléances. La question numéro 1, il s'agit du secrétariat de séance. Conformément au Code général des collectivités territoriales, il est proposé à l'Assemblée de désigner notre secrétaire de séance. Il est proposé Madame Laurence Desfonds-Fargeon, qui s'abstient, la Ligue du Sud, qui est contre à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport suivant, il concerne la séance du 11 juin dernier sur l'approbation du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des questions ? Des observations, qui s'abstient, la Ligue du Sud qui est contre, dossier adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le rapport numéro 3, il s'agit d'une convention de partenariat avec la Chambre de commerce et de l'industrie de Vaucluse, et c'est Madame Desfonds-Fargeon qui est rapporteure.
Bonsoir. Donc nous avons souhaité mettre en place un certain nombre de dispositifs qui visent à permettre aux jeunes de notre territoire de construire leur avenir sur leur territoire, sur Bolène, sur les communes de la CCRLP. Et dans ce cadre, nous avons ont été organisées des tables rondes qui ont eu lieu donc en juin 2023 et octobre 2023 avec l'ensemble des acteurs et partenaires économiques du territoire et qui ont permis d'identifier les besoins des entreprises en termes de recrutement et notamment sur les métiers en tension, ainsi que les besoins de nos jeunes en termes de formation, d'accompagnement et de découverte des entreprises et du milieu professionnel de la CCRLP. À la suite de ces tables rondes, des dispositifs ont pu être mis en place dès 2024, tels que le Forum Avenir Jeune, des conventions de partenariat avec les établissements scolaires ou encore des visites d'entreprises en partenariat avec la CCRLP. En cette rentrée scolaire, cela se traduit par un nouveau partenariat avec le campus de la CCI d'Avignon qui concerne l'ouverture d'une antenne sur le territoire de la communauté de communes à Bolène, donc d'une antenne de l'école hôtelière d'Avignon. Ce campus s'adressera aux jeunes de 16 à 29 ans par la voie de l'alternance et en lien donc avec les entreprises de notre territoire. Dans ce cadre, la CCRLP mettra à disposition de l'école hôtelière d'Avignon un outil intercommunal qui est la cuisine centrale, donc un local de 700 m² pour que la formation pratique puisse se dérouler donc les après-midi lorsque ce local n'est pas utilisé donc pour la restauration scolaire. La CCI, de son côté, assurera le volet pédagogique de la formation donc de ces jeunes. Les formations qui vont être dispensées dans le cadre de ce campus seront définies en partenariat entre la CCI et les représentants de la CCRLP, donc dans le cadre d'un comité de pilotage, donc je vous dirai quelques mots dans une minute. Pour le démarrage de ce campus, et donc pour l'année scolaire donc 2024-2025, il y a deux formations qui seront mises en place. La première, c'est commis de cuisine, qui doit commencer fin octobre, début novembre. Et la seconde, c'est employé polyvalent de restauration. Ces deux formations, comme l'ensemble d'ailleurs des formations qui seront par la suite dispensées par le campus, conduisent à l'obtention de titres professionnels. Et les jeunes, donc, qui seront diplômés, seront tous diplômés de l'école hôtelière d'Avignon. Par la suite, et donc après cette première année, l'offre de formation sera enrichie et adaptée à la fois en fonction des besoins des entreprises et en fonction des besoins des jeunes du territoire. Pour la mise en route et le suivi de ce partenariat, doit être mis en place un comité de pilotage qui sera composé de 8 membres de manière paritaire, à savoir donc pour la CCI de Vaucluse, 2 élus, messieurs Mathieu et Aymin, et 2 permanents, messieurs Delattre et Leroy. Pour la CCRLP, 2 élus, monsieur Zilio et moi-même, et 2 techniciens, la directrice générale des services ou son représentant, et la directrice du pôle développement économique ou son représentant. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver les termes de cette convention de partenariat entre la CCI et la CCRLP, donc sur la mise en place d'une annexe de l'école hôtelière d'Avignon, et de désigner les représentants suivants pour siéger au sein du comité de pilotage paritaire, donc 2 élus, M. Zilio et moi-même, et 2 techniciens, la directrice générale des services et la directrice du pôle développement économique. Et enfin, il revient au Conseil communautaire d'autoriser le président à signer tout document se rapportant à ce dossier.
Merci Madame. Y a-t-il des questions ? L'occasion de saluer la CCI et notamment son président Gilbert Marcelli pour la confiance qu'il nous fait de pouvoir occuper nos infrastructures dans la cuisine centrale. Qui s'abstient ? Qui est contre ? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 4, il s'agit d'une convention d'objectifs entre notre collectivité et l'association du numérique, qui vient s'ajouter aux précédentes délibérations, notamment dans le cadre d'une convention qui s'engage à assurer des missions d'accompagnement individuel, qui s'appelle un dispositif faire à la place, personnalisé et gratuit d'aide à la rédaction de courriers, qui est accompagné par le conseil départemental et pour lequel il y a une participation de notre collectivité sur des missions d'information, de conseil et d'accompagnement à la compréhension des textes législatifs et qui fait appel aussi à des dispositions permettant à informer chaque personne de la démarche et pour la consultation et le suivi de sa demande, etc., etc., de permettre d'orienter et d'informer les usagers vers des services appropriés. Il est donc proposé, suite à la commission qui s'est réunie, d'attribuer une subvention annuelle d'un montant de 9 000 € dans le cadre de la convention d'objectifs entre la CCRLP et l'association du numérique. Dire que les fonds seront prélevés sur le budget principal en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet et m'autoriser à signer cette convention que vous avez en annexe. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport suivant, il s'agit du renouvellement du dispositif d'aide au permis pour l'année 2024. C'est l'actualisation de la convention type. Madame Desfonds ou Madame Arnaud, je ne sais pas. Madame Desfonds.
Alors, il s'agit effectivement donc de renouveler le dispositif que vous connaissez déjà d'aide au permis de conduire, qui a été mis en place depuis quelques années par la CCRLP, et donc d'actualiser son règlement en y apportant quelques modifications. Donc, la communauté de communes a fait le choix d'accompagner les projets professionnels des jeunes du territoire et donc de favoriser leur insertion professionnelle. On le sait, l'obtention du permis de conduire est souvent la condition sine qua non pour accéder à un premier emploi, à une alternance ou à une formation. Et donc, la CCRLP a fait le choix de contribuer à l'obtention de ce permis par une aide. Cette aide représente 500 euros donc, qui est donnée aux jeunes donc, dans le cadre de la formation. Les dossiers sont instruits par la mission locale du Haut-Vaucluse ainsi que par le point information jeunesse et donc par le maire de chaque commune concernée donc pour l'attribution de cette obtention. Le règlement de ce dispositif d'aide vient donc subir quelques modifications, notamment pour l'adapter à l'abaissement de l'aide de l'âge pardon, d'obtention du permis de conduire, donc, puisque désormais le permis de conduire peut être obtenu dès l'âge de 17 ans. Donc on vient préciser cet élément, le stage, puisque l'obtention de l'aide est conditionnée par la réalisation d'un stage dans les services soit de la communauté de communes, soit d'une des communes membres. Donc il s'agit d'un stage de 5 jours au sein, je vous le disais, des services de la CCRLP ou de l'une des communes membres. Enfin, il est précisé que l'aide pourra être accordée si le permis de conduire est nécessaire pour accéder soit à une formation, soit à un emploi, soit à une formation ou un emploi par alternance. Il est donc proposé au Conseil communautaire de délibérer et d'approuver les modalités techniques et financières d'attribution de cette bourse au permis de conduire, qui est versée directement donc, aux auto-écoles du territoire Rennes-Provence, de fixer le montant de cette bourse, comme je vous le disais, à 500 euros, et l'enveloppe annuelle de ce dispositif représentera 10 000 euros pour l'année 2024, d'actualiser le règlement et la convention d'engagement type relative à la dite bourse, et enfin d'autoriser le président à signer cette convention et tout document se rapportant à ce dossier.
Merci Madame. Peut-être préciser que c'est en partenariat avec la mission locale du Haut-Vaucluse et au travers du point information jeunesse. Sur les 5 dernières années, depuis que nous avons mis en place ce dispositif, nous avons accompagné 60 jeunes pour passer le permis en contrepartie d'un stage dans notre collectivité, auquel s'ajoutent les 20 dossiers que nous vous proposons, et répartis sur l'ensemble du territoire. J'y tiens, les 5 communes ont des jeunes qui ont été envoyés pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le rapport suivant, il s'agit d'une convention pour la participation d'intervenants extérieurs réguliers rémunérés à l'enseignement de la natation. Monsieur Flaugère, vous avez la parole.
Merci Président, Mesdames et Messieurs, bonsoir. La CCRLP met à disposition des écoles de Bolène, La Palue, Mondragon et Mornas sa piscine. Chaque classe disposera d'un créneau d'apprentissage aux activités aquatiques. Aucun public ne sera accepté sur ces créneaux. La qualification des personnels rémunérés répond aux exigences de l'éducation nationale. La présente convention consentie à titre gratuit à une durée d'une année scolaire, renouvelée par tacite reconduction sous réserve de produire l'agrément des intervenants. Vous êtes appelé à délibérer pour approuver les termes de la convention fixant les conditions générales d'organisation et de concertation préalable à la mise en œuvre des activités, et d'autoriser le président à signer cette convention et tout document se rapportant à ce dossier.
Merci Monsieur Flaugère. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport suivant, il s'agit d'une convention relative à la participation financière régionale pour l'utilisation d'un équipement sportif intercommunal. Monsieur Flaugère.
Oui, merci. Vu la convention relative à la participation financière régionale pour l'utilisation d'un équipement sportif intercommunal par un ou plusieurs lycées publics ou privés sous contrat d'association année 2023-2024. Considérant que la communauté de communes met à disposition l'espace aquatique intercommunal pour la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive du lycée Lucie Aubrac de Bolène, le conseil communautaire est appelé à délibérer pour approuver les termes de la convention à passer avec le conseil régional définissant les modalités financières d'accès des élèves du lycée Lucie Aubrac à l'espace aquatique intercommunal. Autoriser le président à signer cette convention à tout document se rapportant à ce dossier.
Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport suivant, il s'agit d'une subvention exceptionnelle pour l'organisation, rapport numéro 8, pour l'organisation de deux randonnées de l'association du Beau Cyclo Bolénois, l'organisation de manifestations sportives qui sont la Gravelaise et le Roc du Barry, notamment un projet qui présente un coût de 11 200 €, et qu'à ce titre, il a été demandé une subvention exceptionnelle qui vous est proposée à hauteur de 1 500 € au titre de l'organisation des manifestations sportives 2024 proposées par l'association du Beau Cyclo Bolénois. Il vous est proposé donc de m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier, d'attribuer cette somme et de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget annexe Office de tourisme en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 9, il s'agit d'une consultation de l'État, par l'État, des collectivités dans le cadre des exceptions. Madame Ricard.
Merci, Président. Considérant que CNR, filiale à 100% de la Compagnie nationale du Rhône, porte un projet photovoltaïque flottant sur la carrière du secteur du Gagne-Pain situé sur la commune de Mondragon, dont l'extraction s'est terminée en 2022, l'ensemble du secteur est en zone rouge du PPRI du Rhône, considérant qu'au terme de la loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, loi APER, le PPRI peut prévoir des exceptions ou interdiction à l'implantation de centrales solaires dès lors qu'il n'en résulte pas une aggravation des risques. Considérant que M. le préfet de Vaucluse, en date du 24 juillet 2024, sollicite les maires et présidents d'EPCI pour prévoir explicitement la possibilité d'implanter des centrales solaires au sein de la zone rouge du PPRI, sous réserve de justifier la non-aggravation des risques, considérant enfin le courrier du maire de la commune de Mondragon, en date du 27 août 2024, qu'au regard des éléments mentionnés, il proposera au prochain conseil municipal d'émettre un avis favorable à la proposition de déroger aux règles du PPRI du Rhône par M. le préfet de Vaucluse. Le conseil communautaire est appelé à délibérer ce soir pour émettre un avis favorable à la proposition de déroger aux règles du PPRI du Rhône par Monsieur le préfet de Vaucluse.
Merci. Y a-t-il des questions ? Monsieur Mossi.
Juste, à juste titre, le préfet nous demande notre avis. Est-ce qu'on a une analyse de risque ? Parce que de mémoire de Mondragonais, je pense que les 2,50 m de niveau de débordement du Rhône, on les a connus à ce niveau-là. Donc si les digues, on suppose qu'elles sont entretenues, venaient quand même à lâcher, on peut supposer qu'on aurait un grand courant d'eau et un risque de retrouver des panneaux solaires de Mornas à Arles, comme on a pu le connaître lors de certains débordements du Rhône. Donc est-ce qu'il y a eu une analyse de risque pour pouvoir se prononcer en disant « il n'y a pas de risque ».
Alors sur ce rapport qui vous est présenté, d'abord nous avons suivi la logique qui est toujours la même, celle de validé après avis du conseil municipal qui sera proposé chez vous. La deuxième, c'est que les services de l'État ne disent pas qu'il n'y aura pas de risque, dans ce que j'en comprends, mais demandent aux porteurs de projets, c'est dans les dispositions de l'arrêté ou du courrier que me fait le préfet du 24 juillet, que vous avez sûrement en annexe, que les dispositions, les installations doivent prendre en compte la crue de référence celle qui est jusqu'alors, si c'est toujours le même, le service des eaux dirigé par M. Croze à la préfecture, qui lui a classé les digues si elles étaient avec un risque. D'ailleurs, c'est cet état de transfert et d'étude de digues qui a permis de transférer Gemapi aux communautés de communes, parce que l'État a classé des digues avec un risque d'inondation ou pas. Donc il ne s'agit pas là de venir juger de l'opportunité et du projet et du danger que cela occasionnerait dans le cas d'un tel projet, puisque si le projet qui est déposé, de ce que j'en comprends, hein, je ne suis pas préfet, venait à accentuer le risque de crue, du niveau de crue de référence, c'est ce qui est écrit dans le courrier, qui a été transmis à l'ensemble des présidents de SCOT, de communautés de communes et les maires concernés, et l'impact sur la ligne d'eau, la transparence hydraulique maximale de l'installation, y compris des clôtures ou autres, alors je pense que l'avis du préfet, de toute façon, est souverain. Quant aux installations qui produisent de l'électricité, vous savez qu'elles sont soumises et régies par un arrêté préfectoral qui est de la libre appréciation de l'État d'autoriser ou pas, comme ça a été d'ailleurs le cas sur le plan d'eau de Piolenc, lorsqu'ils ont mis en place une serre flottante photovoltaïque avec la société Acuo Énergie. Donc voilà ce que je peux vous répondre. Ce n'est pas que je jette le projet à la touche, c'est juste que le préfet ne nous demande pas de nous positionner, monsieur le maire de Mondragon.
Donc il a été effectivement fait une étude approfondie. Et la crue historique de référence de 1856 a été prise en compte dans le cadre de ces travaux-là. Donc tout est prévu pour que ça résiste à une crue centenale quoi, et historique de 1856 qui représente la crue de référence dans le secteur. Quoi.
Merci. Donc il nous faut délibérer cet avis sur le rapport numéro 9. Donc la question c'est émettre un avis favorable. Qui s'abstient ? La Ligue du Sud et M. Mossi qui est contre ? À l'unanimité, je vous en remercie. Le rapport suivant, il s'agit de l'élaboration et de mise en œuvre d'un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés et de la création de la commission consultation, élaboration et de suivi du programme. Madame Ricard.
Oui, Président. Donc, nous avions déjà abordé ce sujet concernant ce plan. Il s'agit ici d'avancer sur la méthode et les moyens à mettre en œuvre. Donc je lis, considérant que ce plan est un programme d'action de 6 ans ayant pour objet de coordonner l'ensemble des actions entreprises en vue d'assurer la réalisation des objectifs de réduction des déchets, considérant le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, Ambition Territoire 2030, qui a été adopté en assemblée plénière le 19 décembre 2019 et est entré en vigueur le 10 avril 2020 et sa procédure de modification engagée en 2022. Considérant que la loi en vigueur sur la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire fixe de nouveaux objectifs stratégiques de gestion et de prévention de la production de déchets qui sont notamment codifiés au Code de l'environnement, considérant que ce programme de prévention des déchets permet également de suivre l'évolution des impacts des mesures prises à partir d'un point zéro, d'identifier des freins et des leviers d'optimisation et aussi de dégager des priorités et de les hiérarchiser, considérant que ce plan pour la CCRLP se déroulera sur la période de 2025 à 2031 et qu'il est révisable partiellement ou totalement tous les 6 ans. Considérant que la constitution d'une commission consultative d'élaboration et de suivi du dit programme local de prévention est imposée par le décret du mois de juin 2015, considérant que la CCES aura notamment pour mission de donner son avis sur le projet de plan, avant que celui-ci ne soit arrêté par l'exécutif, conformément à l'article du Code de l'environnement, qu'un bilan du programme lui est présenté chaque année et qu'elle évalue ce plan tous les 6 ans, considérant tous les articles donc afférents au Code de l'environnement. La CCRLP fixe librement la composition de cette commission, nomme son président et désigne le service chargé de son secrétariat afin qu'elle puisse ensuite définir son programme de travail, son mode de fonctionnement et les modalités de concertation avec les acteurs concernés par la prévention des déchets ménagers et assimilés sur le territoire qui ne sont pas représentés dans la commission. Considérant que dans un objectif de concertation et de représentation du plus grand nombre des acteurs concernés par le sujet sont proposés pour constituer cette commission, je dis donc le président de la CCRLP ou le représentant qu'il désigne à cet effet, les représentants de la commission gestion et prévention des déchets et d'inviter chaque fois que nécessaire, selon le sujet, des experts externes professionnels du territoire, représentants associatifs, élus, usagers, tout regard qui pourrait nous apporter un éclairage. Considérant que le service de la gestion des déchets de la CCRLP sera chargé du secrétariat de la commission, le conseil communautaire est appelé à délibérer pour approuver l'engagement de la CCRLP, approuver la création et la constitution de la commission, approuver la désignation du président et du représentant qu'il désigne à cet effet comme président de la commission, autoriser le président de la CCRLP à désigner les experts, désigner le pôle administratif du service public de la gestion des déchets de la CCRLP pour assurer le secrétariat de cette commission, dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget principal en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet, et enfin autoriser le président à signer tout document se rapportant à ce dossier.
Merci Madame Ricard. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Le rapport suivant, il s'agit du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers pour l'année 2023. Madame Ricard.
Considérant que les collectivités en charge du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers assimilés ont l'obligation de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers assimilés, ce rapport donc sera remis après validation par le Conseil communautaire aux communes membres afin qu'il soit présenté au conseil municipal pour information et qu'il puisse être mis à disposition du public dans chaque commune. Le conseil communautaire est donc appelé aujourd'hui à prendre acte de ce rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets année 2023, joint à la présente délibération que vous avez tous eue et que je suppose vous avez tous lu avec beaucoup d'attention. En dehors de cette présentation, donc, je me permets quelques commentaires et puis mettre un peu en relief quelques points qui me paraissent importants. Évidemment, je ne vais pas vous faire la lecture des 27 pages de ce rapport, sinon que de remercier l'ensemble des services qui se sont mis à la tâche pour vous rendre les choses les plus compréhensibles possibles et en tout cas les porter avec la totale transparence qu'il se doit. Donc je voudrais rappeler et profiter de ce bilan pour dire que 2023 a été une année très importante pour le service déchets. On en a déjà parlé, mais il est bon de le rappeler ici. Ça a été une année très importante, une année certainement charnière dans la gestion de ce service, avec, sur un premier point, le travail important mené sur la structuration du service. On en a déjà parlé, mais je veux ici rappeler qu'en effet, 2023 était l'année de la constitution d'une équipe absolument dédiée, aussi bien pour les déchetteries que pour l'ensemble des missions. Vous rappelez ici la reprise en régie de la déchetterie de Bolène, qui s'est vue quelque peu transformée, je suppose que tout le monde a pu le constater. Une équipe dédiée signifie plus d'efficacité et aussi un vrai service au public. Alors le vrai service au public, eh bien, c'est à travers la gestion des déchetteries, évidemment, mais pas que. C'est aussi la collecte en régie des cartons auprès des commerçants, ce qui est très très apprécié sur notre territoire. C'est aussi la collecte du papier dans l'ensemble de nos écoles, et ce n'est pas un détail. C'est aussi la collecte des sapins de Noël sur l'ensemble du territoire. C'est aussi l'entretien du parc des bacs, qui demande sans cesse des réparations, des aménagements, des bricolages divers que nos services aujourd'hui peuvent entretenir comme il se doit. Et enfin, d'une brigade verte lorsqu'il faut intervenir en urgence sur les points de collecte ou de dépôt de déchets. Une année donc importante avec ce premier travail de restructuration et de structuration d'un service dédié. Aussi une année charnière et très importante avec le travail engagé sur le traitement des biodéchets à la source et leur valorisation. Je veux rappeler ici donc les actions que nous avons entreprises en 2023 avec la vente à prix réduit de composteurs individuels afin de pouvoir traiter vraiment la source, c'est-à-dire à partir à côté de vos cuisines, de nos cuisines, de pouvoir traiter ces déchets. Je veux rappeler ici, il a déjà été dit, mais il est bon de souligner le succès de cette action, puisque à ce jour, donc 750 composteurs individuels ont été récupérés par nos administrés. 200 nouveaux composteurs individuels arrivent et seront mis à disposition pour compléter les demandes en cours et sur liste d'attente à partir de lundi, si ma mémoire est bonne, où ils seront déposés, donc, comme pour les premiers, à la déchetterie de Mondragon. L'année 2023, donc, c'est le travail engagé aussi depuis sur les déchetteries avec la réorientation des déchets professionnels vers les filières de métiers aujourd'hui structurées. La réflexion a été menée depuis plusieurs mois, depuis presque trop longtemps, mais il fallait, pour passer à l'action, pouvoir avoir des réponses pour les professionnels, ne pas les lâcher dans la nature et ne pas les laisser face aux soucis de leurs déchets. Et pour cela, sous l'impulsion du gouvernement, les filières se sont structurées. Donc, nous étions prêts à pouvoir annoncer aux professionnels que les déchetteries ne recevraient plus leurs déchets professionnels et qu'il faudrait donc pour eux s'organiser. Là aussi, là où on attendait des grincements de dents, eh bien écoutez, tout s'est très bien passé parce que les réponses sur le territoire sont là. Et donc tout s'est mené avec beaucoup de bienveillance et de compréhension. Quelques points encore à améliorer, mais des épiphénomènes que nous sommes en train de traiter. Enfin, rappeler, bien que 2023 a vu la poursuite et la confirmation du pari réussi de la ressourcerie, qui poursuit sa progression. Et là, on peut se dire vraiment que le pari est réussi socialement d'abord, et je voudrais dire d'abord socialement, avec des emplois à la clé, de cette façon de recycler nos déchets. Et puis un pari réussi, évidemment, sur la promotion du réemploi, puisque tous ces déchets qui ne sont plus des déchets mais du réemploi possible à des coûts très accessibles nous permettent donc de parler de succès, puisque vous voyez tous à la presse, si vous allez à la ressourcerie régulièrement, vous pouvez voir tout ce que je vous dis en vrai de vos yeux et même en profiter certainement. 2023, donc, je le disais, c'est l'année de profonds changements, mais qui seront mesurés pour les premiers éléments. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes sur la bonne voie. 2024 verra des mesures très factuelles et des mesures qui confirmeront que nous avons fait les bons choix. C'est ce qui fait de ce bilan un bilan un peu frustrant, parce que nous avons beaucoup travaillé. Mais la mesure se fera réellement et efficacement en 2024. Ceci dit, les premiers éléments nous confortent dans le choix que nous avons fait sur les actions diverses menées. Sur l'aspect financier, 2023 sera l'année, et c'est moins réjouissant évidemment, de l'augmentation de la taxe des ordures ménagères. Une nécessité plus qu'un choix pour se rapprocher de la conformité. Aucun élu ne prend cette décision avec gaieté au cœur. La raison se doit parfois d'accompagner nos budgets et puis aussi le devoir de répondre à une réglementation et donc à des invitations de gestion où nous devons tendre vers l'assimilation financière de nos dépenses par la taxe que nous récoltons. Malgré ce, vous remarquerez un différentiel qui persiste. Encore plus de 300 000 euros, donc, où il nous faudra abonder avec le budget général pour les dépenses de fonctionnement. Trois raisons à cela. Les trois raisons, c'est d'abord les frais de personnel, avec cette restructuration qui a nécessité donc une augmentation des charges de personnel. Ensuite, donc, une adhésion au CIP en année pleine, puisque l'année précédente, on avait une adhésion sur une demi-année, puisqu'on a adhéré au CIP de mémoire le 1er juillet, me semble-t-il. Donc, ça nous faisait une demi-adhésion. 2023 verra donc une adhésion dans sa totalité. Et enfin, une régularisation de facturation, puisque le système mis en place de versement au budget du CIP sur les dépenses de traitement de nos déchets se font par facturation forfaitaire qui se régularise en fin d'année. Et nous avons payé plus que ce qu'il fallait, puisque nous avons consommé moins que prévu. Donc ce qui a été dépensé en plus a été versé que sur l'année 2024, donc vous retrouverez ce chiffre sur l'année 2024, mais il est là en dépense sur l'année 2023. Vous remarquerez aussi une augmentation des dépenses d'investissement, mais ça, c'est un choix pour engager dès l'année 2023 eh bien, des besoins d'équipement pour pouvoir aller vers cette baisse tant souhaitée de collecte de déchets, de production de déchets sur notre territoire. Et de temps en temps, écoutez, il faut oser des investissements en sachant que la mesure sera très rapide dans l'efficacité du résultat. Et nous le mesurerons, j'en suis absolument certaine, en 2024. Voilà ce que je voulais dire pour mettre derrière tous ces chiffres qui ne sont pas toujours très agréables à lire, les points qui me paraissaient importants à retenir. En tout cas, je veux remercier vraiment, très sincèrement, l'ensemble des services qui sont sous pression permanente pour arriver à nos objectifs, de dépenser moins sur ce service, d'être plus efficient sur la revalorisation de nos déchets. Et enfin, je voudrais remercier particulièrement le président et la directrice de service qui ne comptent pas leur temps pour être à nos côtés et nous rappeler les engagements pris publiquement par le président. Voilà.
Merci. Y a-t-il des questions ? Madame Caléron.
Alors, quelle ironie ! Dans ce rapport, vous nous annoncez pêle-mêle que grâce au CIP, le prix à la tonne est moins cher, que la hausse vertigineuse de la taxe d'ordures ménagères payée par les contribuables et les entreprises a permis d'améliorer la situation, mais que le budget présente tout de même un déficit important, comblé par le budget général. Après avoir augmenté la taxe d'ordures ménagères de plus de 56% depuis que vous avez pris cette compétence, vous affichez toujours un déficit de plus de 339 000 euros. Allez-vous augmenter éternellement la taxe, solution de facilité par excellence, ou allez-vous enfin chercher à gérer correctement ? Car sachez-le, les habitants ont bien vu la différence sur la taxe foncière. Vous avez tout de même prélevé quasiment 1 million d'euros de plus en 2023. Et cela ne suffit encore pas. Vous annoncez d'ailleurs un coût de traitement qui baisse de 17% grâce au CIP, et pourtant la facture explose, malgré la hausse de la taxe. Comprenne qui pourra. Sans compter la dette accumulée, qui ne figure pas, bizarrement, dans ce rapport, alors que cela permettrait d'éclairer les élus et habitants. La part de recyclage continue de diminuer, ce qui est un non-sens total dans ce contexte environnemental où les consignes de tri sont rappelées partout. Là encore, c'est le fruit de votre politique et de vos échecs. Il faut voir dans quel état sont les points d'apport. Vous dégoûtez les habitants de faire le tri. J'ai de nombreuses photos à mettre à votre disposition si nécessaire. Alors que la quantité de déchets produits a explosé depuis 2010, vous avez réussi à avoir un taux de recyclage moins important que lorsque nous gérions cette compétence. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier et nous voyons bien là que l'environnement n'est pas une préoccupation pour vous au-delà des discours. Enfin, je veux attirer l'attention de tous les élus présents. Je pense que ce rapport n'est pas exact et je voudrais une explication de votre part. Si l'on prend le coût de traitement 2022 de 1 934 000 euros et des poussières et qu'on le compare au coût de traitement 2023, 2 488 000, nous pouvons constater une hausse de 553 000 euros. Ce chiffre est d'autant plus étonnant que le tonnage a diminué, de peu, mais il a diminué. Que la baisse liée au CIP est intervenue en cours d'année 2022, la tonne serait passée de 193 euros à 159 euros. Si ces informations sont vraies, l'année 2023 aurait dû bénéficier à plein de la baisse du coût à la tonne. Or, comme je vous l'ai démontré précédemment, c'est loin d'être le cas avec plus de 500 000 euros de dérapage. J'attends votre explication. Il s'agit là de chiffres très concrets issus de votre rapport.
Merci, madame. Y a-t-il d'autres interventions ? Madame Ricard, je vous en prie.
Oui, président. Moi, je le rappelle à chaque séance. Je suis au service des habitants de ce territoire. Je ne suis pas au service de la politique, en tout cas pas celle que vous menez. Je vous rappelle, madame Calero, que vous faites partie de la commission collecte et traitement des déchets, que vous êtes absente en permanence, alors vous ne remplissez même plus votre rôle de venir apporter votre contribution au niveau de la réflexion, et que vous profitez des séances de conseil communautaire pour vous mettre en avant avec des commentaires, des chiffres que vous analysez à votre façon. Moi, je suis sur le terrain, je suis auprès des services. Évidemment, on ne voit pas les mêmes choses. Mais je crois que je n'ai pas envie de mettre de l'énergie à répondre à vos remarques parce que, voyez-vous, Madame Calero, quand on a de la haine, comme vous avez de la haine envers nous, et particulièrement envers Anthony Zilio, vous ne pouvez pas lire les choses comme on doit les lire. Vous comprenez ? Ça, c'est faire de la politique. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne vais pas répondre à tout ça parce que, encore une fois, il y a des heures et des temps où on est autour de la table et où on peut travailler. Mais évidemment, travailler, ce n'est pas ce que vous faites. Vous préférez commenter et humilier. Mais moi, personnellement, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Donc, madame, venez autour de la table, travaillons, puisque nous sommes si bêtes que ça. Amenez vos idées, vous servirez votre territoire. Et je vais laisser donc le président, s'il en a envie, vous répondre. Quant à moi, mon énergie, je la mets ailleurs.
Bien, merci madame Ricard et madame Calero. Je veux juste répondre sur ce rapport parce qu'il est important. D'abord parce qu'il est en pré-installation d'une unité de valorisation. Vous le savez, sur la question de la valorisation des déchets ménagers, je pense que c'est important de le dire, et dans une transition législative qui désormais facilite les marchands de matériaux de pouvoir revaloriser les déchets, les encombrants des métiers professionnels. C'est important parce que je pense que les chiffres de cette année 2024, avec la fin de la déchetterie aux professionnels, puisqu'aujourd'hui ils ont une filière qui est dans les professionnels comme, je ne citerai pas de marque en particulier, mais tous les marchands de matériaux désormais ont des bennes à disposition pour valoriser les filières de plaques, de placo, de bois, de gravats, qui pèsent lourdement dans les déchets et qui pour autant n'avaient pas de raison d'être financés par le particulier. Et cela l'était depuis la création du système des déchets, notamment de la déchetterie. Je veux insister sur la structuration du service, vous l'avez dit Madame Ricard, mais je veux quand même le repréciser sur notamment le fait du passage en régie de la déchetterie de Bolène, puisqu'elle était, vous le savez, gérée par jusqu'alors le groupe Covet Paprec, et elle a été prise en régie directe par notre collectivité avec une première année de plein exercice en 2023 qui vient aussi apporter des éléments notamment sur la gestion du haut de quai, uniquement du haut de quai puisqu'il s'agit de cela en concernant la déchetterie. C'est aussi les tendances confirmées à la baisse puisqu'on avait observé quand même une flambée des tonnages et que, alors que partout sur le territoire, on observait une baisse, on observait une hausse chez nous et on s'était rendu compte, d'ailleurs ça avait été évoqué en commission déchets, que comme nous n'avions pas des dispositions que nous avons prises, notamment sur la question de la déchetterie aux professionnels, que d'autres avaient prises avant nous, cela suscitait le fait que certains pouvaient être amenés à prendre la carte de déchetterie des habitants de notre territoire pour venir vider les déchets dans nos déchetteries, alors qu'ils n'habitaient pas forcément sur le territoire. J'ai l'exemple de professionnels qui sont extérieurs à la CCRLP, qui venaient utiliser en faisant des travaux chez une dame, prendre sa carte de déchetterie pour venir jeter ses gravats. Et ça a été renforcé par la décision politique de Drôme Sud Provence qui nous entoure, par la décision politique de la CCAOP qui nous entoure, et puis par la mise en place de manière assez abrupte, sans faire de jugement politique, de la mise en place de la redevance incitative sur la communauté de communes de l'agglomération du Gard-Rodanien, Pont-Saint-Esprit, Bagnols-sur-Cèze, qui a désormais mis des forfaits de ramassage avec des cartes permettant aux déchets ménagers d'être ramassés, non pas dans des colonnes, dans des bacs de 600 litres ou au porte-à-porte, mais bien par des fréquences de ramassage sur un système déclaratif, combien de fois par an je vais ramasser votre poubelle, etc. Et donc on a observé notamment chez toi, Tony, sur la motte, la fréquence de ces habitants du Gard qui venaient déposer leurs déchets ménagers sur les axes, soit sur l'axe de la RD 94 entre Suze-la-Rousse et Bolène, soit sur la route entre Pont-Saint-Esprit et notre territoire, où il était plus facile de déposer les déchets ménagers chez les autres plutôt que de les déposer chez soi, puisque c'était facturé au nombre de ramassages. On observe tout de même une baisse confirmée, comme déjà en 2022, par rapport à la collecte des ordures ménagères. Nous sommes bien inférieurs à la moyenne nationale, même s'il reste beaucoup à faire. On ne le cache pas, mais on l'a toujours dit. D'autres points sur lesquels nous avons travaillé avec des résultats qui se verront à partir du rapport de 2024, la vente à prix réduit de composteurs ou encore l'augmentation du nombre de PAV. L'augmentation du budget d'investissement, c'est approximatif 250 000 euros, je crois, 253 000 euros. C'est une augmentation significative de l'ordre de 70 000 euros. Mais je veux vous préciser, vous pouvez regarder le vote du budget que nous avons fait, ces 250 000 euros sont issus du produit que nous récupérons, de la valorisation du tri. Et que par conséquent, nous avons mis, et je l'avais mis dans le budget, que nous redéployons des points d'apport volontaire ou des colonnes de tri à hauteur de ce que nous rapporte la valorisation. Vous le savez, il y a une collecte des ordures ménagères et du tri, colonne bleue et colonne jaune, et puis la colonne du vert, elle est séparée, c'est dans les attributions que nous avons fait. Une augmentation des tonnages qui rendait d'autant plus indispensable les changements sur l'apport et la gestion de la déchetterie, notamment sur le fait qu'en 2022, par rapport à 2022, pardon, nous avons eu 776 tonnes de plus de déchets issus des activités professionnelles par rapport notamment à ces gravats, tout ce que nous avons pu recenser. Et donc au moment où nous aurions dû voir une baisse sur les déchetteries et les tonnages, nous avons pu observer cela. L'interdiction des professionnels, Madame Ricard, vous l'avez dit, qui est devenu acceptable grâce à la responsabilité élargie, ce dispositif qui est le REP, responsabilité élargie du producteur, qui est une disposition législative, et sur la structuration des filières qui permet justement du bois, des meubles de cuisine, de tout ce qui peut être lié à l'activité de travaux, de pouvoir le faire. Je suis en mesure de vous dire que nous avons réduit le tonnage total de 24% depuis que nous avons interdit les professionnels, c'est-à-dire lorsqu'on compare les mois de mai et juillet par rapport au mois de mai et juillet de 2023. Donc on aura les résultats, mais on aura l'occasion d'en discuter ici. C'est aussi ce travail mené au deuxième semestre 2023, au premier semestre 2024, pour améliorer, je pense, en particulier sur la déchetterie de Bolène, la qualité des installations et le parcours au sein de la déchetterie. Vous dire aussi qu'on a réussi un pari qui n'était pas forcément gagné dès le départ quand on a créé cette ressourcerie. C'est un pari réussi pour qu'il poursuive sa progression, puisque l'association d'insertion gère la ressourcerie depuis son ouverture en septembre 2021. C'est une réussite à la fois sociale, puisqu'on permet à 12 personnes pouvoir travailler, dont 45% sont bénéficiaires du RSA, mais c'est aussi une réussite sur le réemploi, puisqu'on a évité sur l'année 2023 près de 130 tonnes qui ont été réemployées contre 100 tonnes en 2022. C'est autant de déchets qui ne partent pas à la déchetterie, qui sont revendus, et donc qui n'augmentent pas et qui n'aggravent pas le tonnage de notre déchetterie. Sur le plan financier, plusieurs points d'ailleurs, c'est toujours marrant de se comparer aux autres, parce que quand vous avez transféré la compétence des déchets de la ville de Bolène à la communauté de communes, il y avait un déficit de 260 000 euros, et qu'aujourd'hui, vous pouvez le regarder aujourd'hui, le déficit sur l'équilibre est lié bien évidemment au fonctionnement, et de 163 000 20 euros. Donc, ce qui veut dire que malgré la forte fiscalité sur la taxe générale des activités polluantes, sur les efforts du gouvernement pour renforcer les dispositions liées notamment à l'alternative de l'enfouissement et de l'incinération, nous avons, je pense, là aussi encore réussi le pari, puisque nous abondons du budget général pour 2023 en section de fonctionnement de 163 000 euros, qui est le déficit, c'est-à-dire le delta entre ce que couvre la fiscalité de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le coût du service des déchets. Et il faut regarder aussi, puisque je suis là depuis quelques années et j'ai pu observer du Sierre au CIP, aux adhésions successives, l'opposition de votre groupe de la Ligue du Sud, qui me fait dire aujourd'hui que heureusement vous n'avez pas été aux responsabilités de cette collectivité, parce que si on avait pris la décision qui était la vôtre, c'est-à-dire celle de ne pas adhérer au CIP, nous aurions eu 315 000 euros de déficit supplémentaire qui se seraient ajoutés aux 163 000 euros si on applique le coût du traitement auquel nous étions soumis avant adhésion au CIP et en 2022 avec le tonnage qui est fait. Et s'il y a bien une réussite encore sur la question du coût du traitement, c'est de dire que chaque année, l'intérêt de l'adhésion au CIP se fait de plus en plus de manière évidente, puisque nous n'avons pas d'augmentation, contrairement à ce que vous dites, l'adhésion au CIP ne nous a pas fait une augmentation du coût de traitement, puisqu'il est gelé, alors même, par exemple, que la taxe générale sur les activités polluantes, elle, est passée de 45 à 52 euros la tonne, sans changer quoi que ce soit. Si on applique seulement le coût de traitement auquel nous étions soumis, je l'ai dit tout à l'heure, et entre le traitement qui était avant notre adhésion, nous avons dégagé des économies supplémentaires. Et entre-temps, il aurait fallu, bien évidemment, que le coût du traitement aurait certainement continué, lui, d'augmenter avec les dispositions législatives. Sur les dépenses d'investissement, vous l'avez dit, 253 000 euros. Nous renforçons l'investissement sur le matériel de précollecte, sur les conteneurs, sur le parc vieillissant et sur les colonnes de tri en vue de leur extension dans la logique que vous avez dit. C'était celle à peu près de vouloir à la fois enlever la question des biodéchets. Les biodéchets dans les composteurs, c'est à peu près 80 kg par an par habitant. C'est colossal et donc ça permet, je crois, de pouvoir réduire une fiscalité à hauteur de 25 000 habitants. On voit bien qu'on tombe à 350-360 000 euros de fiscalité de TGAP qu'on enlève dans le coût du déchet, rien qu'en mettant en place les composteurs collectifs ou les composteurs individuels. Alors, je sais que ça peut, ici ou là, faire sourire, mais je pense que c'est très important que de faire en sorte de pouvoir créer une politique globale qui consiste à valoriser les biodéchets, et il y en a beaucoup. Nous avons bien évidemment, vous l'avez dit, mais des reports qui sont assez compliqués à comprendre, mais qui sont ceux que le CIB nous a rendus, par exemple, qui nous avait facturé en 2023 près de 100 000 euros, qui nous a rendus en 2024. Ces 100 000 euros auraient dû apparaître au bilan comptable de 2023. Il n'apparaît pas parce qu'il y a eu une surévaluation de nos tonnages par rapport à la réalité qui nous a été rendue l'année d'après. Et donc, le rapport ne tient pas compte de cette refacturation. On a eu aussi, en 2022... L'abondement était de 83 000 euros, mais on avait eu, dans les recettes d'investissement, figuré une subvention exceptionnelle, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de près de 700 000 euros dans le cadre d'intervalles, ce qui a, certes, sur 2023, les recettes du service ne suffisent pas encore à financer les dépenses, mais sans encore anticiper le rapport que je vous dis, avec toutes les dispositions que nous avons prises, il semble désormais clair que les efforts produits en 2023 ont largement produit leurs fruits sur 2024, notamment sur l'interdiction des professionnels en déchetterie, sur ce compostage individuel, sur le compostage collectif, sur les points d'apport volontaires, et sans oublier le dispositif Ciproval que nous avons inauguré ce matin et qui vient modifier à notre profit l'économie du traitement des déchets dans une phase d'amorce de Ciproval qui verra demain tous ces co-déchets, tous ces coproduits valorisé sur le marché international, je l'espère. Voilà ce que je voulais vous dire sur les déchets. Donc, il est toujours facile de critiquer, surtout quand on n'a pas montré l'exemple. Et donc, j'ai répondu, je crois, à l'ensemble des intervenants. Voilà, il s'agissait de prendre acte. Je vous propose de passer au rapport numéro 12. Il s'agit de l'avenant de transfert sur le marché de collecte, le tri et le traitement des déchets ménagers assimilés. C'est le lot numéro 1 sur la collecte des OMR et des recyclables et des porte-à-porte et en apport volontaire. Madame Ricard, vous avez la parole.
Donc, vous avez certainement suivi ce qui se passe pour la société Éco-Déchets, qui est en difficulté, qui est en redressement judiciaire. Donc, ici, il faut acter donc, cette signature d'avenant qui va permettre à la société permet à la société Nicolin de reprendre donc le service tel que organisé par Éco-Déchets et d'autoriser le président à signer cet avenant de transfert pour le lot numéro 1. Des questions ?
Merci. Y a-t-il des questions ? Madame Bompard ?
Oui, sur cette délibération. Je me rappelle que vous nous aviez, vos services nous avaient donné rendez-vous, alors que nous attendions un rendez-vous depuis le mois de novembre. Nous avons eu rendez-vous le 23 décembre à 14h, parce que nous voulions des informations sur ce marché que vous aviez passé, qui nous semblait extrêmement tiré par les cheveux. Le résultat aujourd'hui, on le voit, puisque la boîte a fait faillite. Alors, vous vous vantez toujours d'être plus intelligent que nous, d'être plus intelligent, voilà, hein, plus intelligent, meilleure réussite, etc. Or, déjà, ce marché, vous l'avez foiré, largement foiré. Je dois dire que quand nous avons demandé les décisions, les précisions, etc., tout était barré en blanc. On ne pouvait rien voir, alors que ce sont des marchés public et que ça doit être rendu public. Mais on nous disait que l'ACADA avait dit que non, etc. Bon. Donc, ce qui prouve quand même que ce n'était pas très clair. Et aujourd'hui, on en paye le prix, effectivement, puisque cette boîte a fait faillite et que forcément, ça crée des désagréments, outre ce qu'a vécu la population pendant des années. Alors, madame, puisque vous êtes en charge du dossier, je vous dirais que madame Calero n'a pas du tout été ni insultante, elle a été extrêmement factuelle.
Madame Bompard, vous n'avez plus la parole. Il s'agit de l'avenant du marché. Vous parlez d'une commission à laquelle vous ne siégez pas. Donc vous êtes hors de propos. Je vais donc vous répondre. C'est terminé. Vous n'avez plus la parole. Je vais donc vous répondre. Non, vous n'avez pas. Vous avez terminé. Parce que vous faites des digressions. Et en cette rentrée, j'ai pris de bonnes mesures. Désormais, lorsque vous sortez de la délibération, vous aurez un rappel au règlement qui sera écrit dans le procès verbal, en accord avec la sous-préfecture. Et donc, vous sortez du cadre de l'intervention. Pour répondre à cet avenant de transfert, je rappelle à tous ceux qui seraient émis d'un doute face à tant de mensonges qu'il y a un jugement du tribunal de commerce qui, en date du 2 mai, a prononcé le redressement judiciaire de la société Éco-Déchets, que la société Éco-Déchets, c'est très grave ce que vous dites, a été très légalement validée puisqu'elle a fait l'objet d'un vote du conseil communautaire qui lui a attribué le marché, comme la loi lui oblige, à l'issue d'une commission d'appel d'offres. Certes, vous êtes passé dans votre groupe pour être représenté à la commission d'appel d'offres, mais non, contrairement à l'année dernière, ou l'année d'avant, c'était M. Morand qui y est siégé, mais cette année, vous n'avez pas pu. Mais donc, la commission d'appel d'offres a eu lieu, il y avait la répression des fraudes qui est présente, et il y a eu une attribution en bonne et due forme. Le redressement judiciaire, ça peut arriver à n'importe quelle société. Un mandataire financier a été nommé. À l'issue de ce mandatement,